18h02, notre ami Paul Aude est là pour sa revue quotidienne, son tour du monde de la COVID. Salut Paul.
Salut Patrick.
Écoute, il y a deux revues scientifiques qui sont absolument incontournables, là, qui s'appellent The Lancet et le New England Journal of Medicine. Quand on a une étude une nouvelle recherche à publier, ben c'est souvent dans ces journaux-là qu'on va publier. Et les deux, présentement, à cause de l'hydroxychloroquine, là, sont dans le pétrin.
Oui, exactement. Et quand tu as dit parmi les plus prestigieuses revues scientifiques médicales, d'abord leur longévité. The Lancet, ça date d'octobre 1823. Chaque semaine, même pendant les guerres, The Lancet publiait toujours des études, des rapports remarquables d'une rigueur scientifique qui avait été vérifié par des pairs, c'est-à-dire que lorsque tu publiais quelque chose, ton étude avait été révisée par d'autres universités. The Lancet, donc, c'est 197 ans d'histoire, mais le New England Journal of Medicine date de, tiens-toi bien, 1812. Il y a eu une guerre qui s'appelait la guerre de 1812.
Oui, entre le Canada puis les États-Unis.
Oui, 208 ans. Eh bien, ce sont quatre chercheurs qui ont arrondi les coins. Tu sais, il y a toute une controverse qui existe depuis le début de la pandémie sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine. La chloroquine, c'est un médicament extrêmement efficace qui date de 80 ans et qui est un antipaludique. On l'utilise contre la malaria. Ça a permis, en tout cas, de sauver des millions de vies probablement en Afrique, mais très certainement de soulager beaucoup de gens aussi. Le 22 mai dernier, il publie, ces quatre hommes, dans The Lancet, une étude qui concluait que l'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades de la COVID-19 hospitalisés et qu'elle pouvait même être néfaste. Alors, ça a entraîné des conséquences. Ça a eu des conséquences remarquables parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, était en train d'étudier les rapports entre l'hydroxychloroquine comme moyen de guérison avec la COVID-19. Ils ont décidé de tout simplement tout annuler et de se fier à ça comme si c'était l'Évangile. Ben, imagine-toi que 3 des 4 chercheurs ont demandé à The Lancet de retirer l'article en disant « on a tourné les coins ronds ».
Si je comprends bien, Paul, là, il y a 4 auteurs, OK?
Oui.
Et ces 4 auteurs-là se sont basés sur les données qui ont été collectées par une firme qui s'appelle Surgisphere, qui est propriété du 4e auteur.
Et là, ça fait pas très objectif en partant.
Non, non, mais en fait, c'est que ce que ça pose comme question, c'est comment tu as ramassé les données. Puis là, il y a des gros problèmes dans la collecte des données.
Ben voilà, les données n'ont jamais été enchâssées dans la conclusion de l'étude. Sais-tu pourquoi? Ouais. Parce qu'un des 4, le propriétaire, enfin le président de Surgisphere, a dit « ce sont des données confidentielles d'hôpitaux qu'on peut pas utiliser, je ne peux pas vous les dévoiler, elles sont encodées ». Ben oui, mais tu peux pas arriver donc à une conclusion si tu n'as pas les données, les vraies données. Alors ça a causé évidemment tout un émoi. Il y a une centaine de scientifiques à travers le monde qui n'ont pas été leurrés par ça, puis qui ont dit « hey, un instant là ». Vous arrivez à une conclusion, vous avez publié un article scientifique qui n'a pas été révisé par nos pairs. Nous sommes vos pairs et on dit, si vous n'avez pas les vraies données, votre étude ne vaut rien. Alors, The Lancet est obligé de retirer l'article et tout ça et de s'excuser. Dans le cas du New England Journal of Medicine, voilà qu'on retrouve, encore une fois, Surgisphere et les 3 autres dans une étude qui concluait que certains médicaments utilisés pour des problèmes cardiaques, des problèmes coronariens, n'augmentait pas le risque de décès chez les patients. Encore là, l'accès aux vraies données, qui pourtant soutiennent l'étude, n'avait pas été démontré. T'as les 2 plus grandes revues médicales, biomédicales, les plus historiques aussi, qui malheureusement sont faites avoir.
Je suis divisé là-dedans, Paul, parce que d'un côté, c'est la preuve que, bon, la science a fonctionné. Il y a les données étaient pas claires, les données étaient suspectes, puis là le monde scientifique s'est levé, a dit ça a pas de bon sens. Les deux grands journaux ont retiré les études, si tu veux, les ont répudiées. Mais comment se fait que ça a pas été en bon québécois flagué avant?
Ouais, c'est ça le problème. C'est qui était le filtre autant du côté de The Lancet que du côté du New England Journal of Medicine. Est-ce qu'on va mettre ça au compte sur le fait que, sur le compte de l'évolution de cette pandémie historique? Écoute, il y avait tellement de rapports, moi, j'arrivais plus à fournir dans ce qu'on appelle les fameux formats PDF, là. Ça n'avait pas de bon sens à rentrer à 5h le matin, 5h15, tout ça. Une nouvelle étude ici, une nouvelle étude là. Et les médias ont pratiquement tout gobé les études comme étant absolument rigoureuses et sans contestation. Quand tu publies dans The Lancet, quand tu publies dans le New England Journal of Medicine, moi, j'ai pas la compétence scientifique, je vais prendre ça pour du cash, c'est exactement ça. Alors là, imagine-toi que l'OMS, obligée de reprendre ses essais cliniques, de l'hydroxychloroquine.
Mais la grande ironie, c'est que il y a eu d'autres études sur l'hydroxychloroquine qui n'ont pas mené à grand chose pour l'instant, là.
Oui, t'as raison. Regarde, j'essaie pas de défendre l'hydroxychloroquine. T'as raison. Il y a peut-être des études qui ont été menées rigoureusement et qui en arrivent à la même conclusion que l'hydroxychloroquine ne donne pas de résultats et peut s'avérer dangereuse dans certains cas. Mais malheureusement, ça a été camouflé par ce mini-scandale là de la communauté scientifique qui fait rage en ce moment.
Paul, c'est ta 59e et dernière chronique spéciale en temps de COVID et je vais te remercier à la fin de ta chronique, mais tu veux me faire un bilan là, de ces 59 chroniques.
Un survol. Écoute, ce soir, on approche des 7 millions de cas, 6 800 000 pour être précis. On va passer le plateau des 400 000 décès ce week-end. La progression mondiale du coronavirus n'a pas encore atteint son pic parce que nous en sommes encore à 100 000 nouveaux cas par jour, surtout malheureusement en Amérique latine et en Afrique. Je dis malheureusement parce que ils n'ont pas les mêmes moyens qu'on avait dans les pays dits riches comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou même l'Italie dans une certaine mesure. C'est quand même important, 400 000 en fin de semaine.
Oui.
Au Canada, près de 95 000 cas, 7 600 décès. Au Québec, 53 000 cas. On va atteindre le 5 000 décès dans les prochains jours. Mais là-dedans, 80 % des décès, malheureusement, en résidence pour aînés. Ça fait réfléchir.
Qu'est-ce qui nous attend pour la suite des choses, tu penses?
L'arrivée d'un ou plusieurs vaccins. Je t'en ai parlé hier. Je n'en viens pas de l'hyper-optimisme. Il faut dire qu'il y a 125 laboratoires et plus qui cherchent 24 heures sur 24, 7 jours, semaine. Autrement dit, on y a mis le paquet. Bon, l'arrivée de médications également appropriées à la COVID-19. Si on n'a pas de vaccin, mettons, avant 2021, mais si au moins on avait une ou des médications qui te permettaient, si tu attrapais la COVID-19, de ne pas avoir des symptômes extrêmes, on dirait bravo. Est-ce qu'il y aura une seconde vague, oui ou non? Si oui, quand elle va apparaître? L'interaction d'une seconde vague avec l'influenza annuelle. Ça, on est sûr, je t'en ai parlé hier, qu'en janvier, là, on va atteindre notre pic d'influenza. Puis aux nouvelles, on va dire, à Sainte-Justine, l'urgence est débordée, à Maisonneuve-Rosemont également et tout ça. Donc, on sait ça que l'influenza va être là. Mais est-ce qu'il va y avoir une interaction mixé, si tu veux, avec une seconde vague de COVID, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura de nouveaux confinements, distanciation, masques et les conséquences économiques? Les conséquences économiques, il va y avoir ce qu'on appelle le backlash qui va s'installer à l'automne.
Ben oui.
Hein, tu la vois venir.
Et des conséquences en santé, Paul. Tu sais, il y a des listes d'attente immenses pour des opérations. Une partie de ça, c'est pour des cancers. Il y a du dépistage de certains cancers qui ne s'est pas fait. Ça aussi, malheureusement, tragiquement, on va ajouter ça au bilan.
J'ai un ami chirurgien cardiaque. C'est toujours pratique dans mon cas. Je suis passé par là. Écoute, il me dit, à l'Institut de cardiologie, on a toujours opéré. On était toujours en devoir d'opérer, mais il fallait rappeler à des gens, imagine-toi, qui étaient pratiquement en situation d'infarctus, de venez nous voir.
Oui.
On a toutes les précautions nécessaires et on vous opère pareil, là. C'est quand même incroyable. Tu avais des gens là qui étaient symptomatiques, pas de la COVID, de problèmes coronariens, c'est très grave, des douleurs à l'estomac, des engourdissements, et qui disaient « Oh, ça va passer, j'aime mieux ne pas aller à l'hôpital présentement. » Alors, heureusement, je pense que c'est...
Je peux-tu te faire une prédiction?
Vas-y donc.
Écoute, s'il y a une deuxième vague, je suis pas sûr, moi, que nos gouvernements vont nous réencabaner comme ils l'ont fait, parce que c'est tellement complexe arrêter la société, c'est tellement compliqué la repartir, ça coûte tellement cher. Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller pour un modèle un peu à la suédoise.
Moi, je le mettrais, je t'en avais parlé, glisser un mot dans une chronique, un modèle ponctuel. Tu as vu, il y a quelques années, on a fait grand cas, et avec raison, d'éclosion de rougeole.
Oui.
Et heureusement qu'on en a parlé de ça, parce que c'est extrêmement... La rougeole est beaucoup plus contagieuse que le coronavirus, soit dit en passant.
Oui, oui.
Alors, on voulait pas prendre de risques et on a agi localement avec des mesures, distanciation, confinement à la maison, des symptomatiques et des autres qui avaient été exposés, tests. Alors, mais ça a été fait à une échelle locale. On l'a pas fermé, comme on dit, la planète pour ça. Alors, moi, je suis pas mal d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il va y avoir des interventions. Et de toute façon, on a tellement appris.
Oui, c'est vrai.
Je te le disais hier. Et moi, le premier, parce que je suis parti de zéro. Je suis pas un épidémiologiste, peu s'en faut.
OK, troisième et dernier sujet. Tu veux faire un tour d'horizon des discours un peu infantilisants là, qu'on a entendus un peu partout dans le monde.
Bah, écoute, il y a eu tellement de conférences et tout ça. C'est pour m'amuser que je fais ça. Il y a des gens qui ont échappé des phrases cocasses. En Suisse, il y a un responsable de la santé publique qui a dit à la télévision « Gardez toujours une distance de 2 mètres avec vous-même. » Ce qui, dans le fond, est une
bonne chose.
Oui, évident. Moi, je garde toujours une distance avec moi-même. Je suis jamais sûr. Il y a eu l'épisode de la fée des dents. T'en rappelles-tu?
Oui.
Quand François Legault a dit « La fée des dents est un service essentiel. » Eh bien, le même week-end, là, tu vas me dire, il me parle encore de la première ministre de Nouvelle-Zélande, il est fatigant. Jacinda a dit la même chose.
Je sais que tu as un crush sur elle.
Ben, c'était la meilleure. C'était un crush intellectuel.
On le dira pas à Francine.
Non, c'est toute la meilleure. C'est la meilleure. C'est le pays qui a le mieux, c'est de loin, d'ailleurs, mené sa crise. Mais elle a dit ça le même week-end. J'ai dit, est-ce qu'ils se sont parlé, François Legault et Jacinda? Ah oui, il y en a une bonne, au Royaume-Uni. Boris Johnson était à l'hôpital, il se faisait remplacer, et quelqu'un arrive à la télévision, celui qui le remplaçait, je pense, il dit, assurez-vous en tout temps de pouvoir vous laver les mains, même si vous n'avez pas d'eau. Alors, t'es dans le métro, lave-toi les mains quand même.
Traîne ton savon.
Oui, mais en Allemagne, essaie celle-là. Si vous êtes dans les transports en commun, essayez de contrôler votre toux ou vos éternuements. As-tu déjà essayé de contrôler ta toux et tes éternuements? Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, c'est pas facile. Ben, tu vois, regarde.
J'ai pas été capable.
Bon, mais là, je vais finir par la meilleure. C'est la madame responsable de la santé publique d'un comté de la Caroline du Nord. Et elle a dit quelque chose de tellement drôle. Elle voulait donner des instructions sur la réouverture des tennis, un peu comme l'a fait la ministre Isabelle Charest. Et elle parle devant un auditoire à l'extérieur, devant un court de tennis, et elle affirme « Vous pouvez frapper leurs balls ». Sauf que en anglais, « balls » veut dire « tes couilles ». Lorsqu'on dit « balls » en anglais au pluriel, ce sont tes testicules. Alors, elle dit, assurez-vous également de marquer vos balls avec vos initiales. Et là, il y a un public devant elle, un peu comme des journalistes.
Là, tout le monde part à rire, tout le monde se retient.
Mais ils se retiennent en même temps. Pendant son discours, on entend les rires. Et je voudrais te faire entendre l'extrait de cette madame qui a parlé des testicules qu'on devait identifier avec un crayon marqueur.
You can kick their balls, but you can't touch them. You can kick their balls, but you can't touch them. I'm going to blush, sorry. Of course, if you're playing with someone in your household, you can touch those tennis balls. To avoid confusion between whose balls are whose, you can use a marker, like a Sharpie, to mark X with an X and put someone's initials on it.
Si vous avez une certaine confusion qui règne dans vos balls, dans vos couilles, vous pouvez utiliser un Sharpie, un crayon marqueur et les identifier avec vos initiales.
Et elle était consciente du double sens, parce qu'elle m'en est, elle dit, écoutez, je m'excuse, je suis en train de rougir.
Mais elle a l'air très sympathique. Elle a réalisé son lapsus, mais elle a embarqué dans le jeu. J'ai trouvé ça très rafraîchissant.
Ben Paul, je te laisse marquer toutes tes balles de tennis. Merci, ça a été 59 chroniques très agréables que tu as livrées à nos auditeurs à 18h02 chaque jour depuis, mon Dieu, depuis 3 mois presque.
Et je tiens à te dire, Patrick, que ça n'a pas été nécessairement très agréable parce que j'avais du contenu que j'essayais de livrer le mieux possible, oui, mais du contenu qui n'était pas agréable. Mais je suis content parce que j'ai fini fort cette semaine avec beaucoup d'optimisme.
Tu as toujours voulu passer de l'optimisme. Paul, tu as toujours mis de l'emphase sur l'espoir, les vaccins, etc. Et tu l'as fait avec ton style inimitable, si enjoué. T'en remercie.
C'est gentil, ça a été une belle collaboration. Et je donne rendez-vous à tout le monde demain matin, 7h.
Et dimanche, 7h. Merci, Paul.
Et dimanche, 7h.
Excellent week-end.
Bon week-end.
18h17. Ray Lalonde s'en vient, on va parler de basketball.